Chapitre 2. Premiers émois. « Tu es rentré bien tard, » dit Madame Forbach à François le lendemain matin. Elle et son fils Adolphe habitaient depuis 30 ans le rez-de-chaussée d'une vieille maison de l'île Saint-Louis à Paris. Madame Forbach avait 75 ans. Elle était aveugle. Son fils Adolphe était hydrocéphale. François de Sérieuse apportait sa jeunesse dans cette maison. Dès qu'il avait eu un âge qui lui permettait de sortir, Madame de Sérieuse, qui vivait à Chantilly, avait eu une idée. Lui avoir une chambre chez les Forbach. Elle leur donnait de l'argent pour le logement et les repas de son fils. Madame Forbach avait été mariée en 1850 au Prussien von Forbach, un alcoolique, collectionneur de virgules. Il comptait le nombre de virgules d'une édition de Dante. Le total n'était jamais le même. Ce matin, François était si joyeux de sa rencontre de la veille qu'il avait envie d'en parler et de raconter le bal à Robinson. Robinson éveillait en Madame Forbach une foule de souvenirs. Elle vivait de souvenirs. Parfois, François, assis à côté d'elle, regardait un album plein de photographies de Monsieur de Sérieuse. Sa mère les lui cachait. Son père avait été officier de marine. Il était mort en mer et Madame de Sérieuse ne voulait pas donner envie à son fils de faire le même métier que son père. « Comme je me serais entendu avec lui !» soupirait François. Son fils trouvait sa mère distante. Madame de Sérieuse adorait son fils, mais elle avait été veuve à 20 ans et elle avait eu peur de donner une éducation féminine à son fils. Alors, elle avait refoulé ses élans. À peine assis, le comte d'Orgel s'était lancé dans un monologue. François, d'habitude, aimait assez les bavards, parce qu'il permettait de se taire. Cette fois, il était énervé, car il ne pouvait placer un mot. Dès qu'il ouvrait la bouche, Anne s'exclamait, riait, la tête renversée. « Je n'aurais jamais pensé être si drôle », pensait François. François de Sérieuse trouvait que le comte d'Orgel ressemblait au portrait que faisait de lui ceux qui ne l'aimaient pas. Alors, quand il s'installe dans le salon, François cherche une excuse pour partir le plus tôt possible. Mais un feu de bois brûle dans le salon. La cheminée réveille chez Sérieuse des souvenirs de campagne. Il parle simplement. Cette simplicité choque le comte d'Orgel. Le visage de Madame d'Orgel, par contre, se met à vivre. Elle ouvre les narines, respire profondément. Elle desserre les lèvres. Tous deux parlent de la campagne. François, pour profiter du feu, approche son fauteuil de la cheminée et pose sa tasse de café sur la banquette où est assise Madame d'Orgel. Anne, assise par terre, se tait. Que se passait-il? Pour la première fois de sa vie, Anne d'Orgel était spectateur. Et pour la première fois, Anne d'Orgel voyait sa femme autrement. Elle lui plaisait davantage, comme si elle avait été la femme d'un autre. « Quel dommage, Anne, que vous n'ayez pas les mêmes goûts que moi !» dit Madame d'Orgel. Aussitôt, elle se calme. Pourtant, ses paroles avaient du sens. La différence entre Anne et Mao était profonde. Le téléphone sonne. Anne se lève et décroche le téléphone. C'est Paul Robin. « Il y a quelqu'un qui veut vous parler !» dit Anne en tirant François par la manche.
« Toi ? C'est toi ?»
murmure Paul dès qu'il entend la voix de Sérieuse. « Encore avec les Orgel, » se disait-il. « Que veut dire cette histoire ? Il faut que je sache. »«
Peux-tu dîner avec moi ? Je voudrais te parler, j'aimerais te voir, »
dit-il au téléphone. François de Sérieuse accepte.
« Surtout, ne raccroche pas, il faut que je parle à Monsieur d'Orgel. »
Anne reprend le téléphone. Paul prétend avoir une chose urgente à dire au Orgel. Peut-il venir tout de suite ?
Ce pauvre Paul, notre petite plaisanterie d'hier soir l'a troublé,
dit Anne en raccrochant le téléphone.
Je sors, dit Mao.
Anne était très étonnée de cette décision inattendue.
Mais vous savez bien que l'automobile n'est pas là.
J'ai envie de marcher. D'ailleurs, j'avais complètement oublié Tante Anna. Elle m'en voudrait. Anne d'Orgel ouvre de grands yeux comme on lève les bras au ciel. Son visage signifiait « Ma femme est folle,
Je ne sais pas ce qu'elle a, ni pourquoi elle ment. » Mao tend la main à François et sort. Au coin de la rue, Paul se retourne sur Madame Dorgel. Il entre. Il a gardé son manteau comme un commissaire de police. Il trouve l'absence de Madame Dorgel étrange. « Je ne fais qu'entrer et sortir, » dit-il. « Mais cela ne valait pas la peine de venir, » dit Anne un peu moqueur, après un mensonge de Paul. « Où allez-vous dîner ? » demande-t-il aux deux amis. « Nous restons chez nous, mais peut-être pourrions-nous vous rejoindre après dîner. » Le soir, François arrive le premier au rendez-vous. On lui apprend qu'il y a eu un coup de téléphone. Le comte Dorgel regrettait de ne pouvoir venir après dîner et demandait à Monsieur de Sérieuse de lui téléphoner le lendemain matin. En effet, une fois Madame Dorgel revenue de sa promenade et devant son bonheur à l'idée d'une soirée en tête-à-tête avec lui, le comte n'avait pas osé lui parler de la soirée et avait téléphoné pour décommander. Ce soir-là, les deux époux ne s'étaient pas beaucoup parlé. Anne Dorgel n'était à l'aise que dans des pièces pleines de gens. Paul et François, eux, parlent beaucoup. Mais Paul n'ose pas poser des questions à son ami au sujet des Orgel. Alors, il raconte son retour en voiture entre la princesse d'Austerlitz et l'américaine. « Elle n'a jamais voulu nous dire ce que tu avais fait ou raconté, mais elle ne t'emporte pas au paradis. » François sourit, amusé par cette histoire. Il lui raconte comment il a fait la connaissance d'Orgel chez des clowns. Paul respire. François prend le dernier train pour Champigny. Il monte dans un compartiment occupé par une famille de braves gens qui rentrent du spectacle. Le petit garçon, très fier d'avoir les billets, les laissait dépasser au revers de sa manche. Le chef de la famille tenait d'une main un chapeau d'une forme ancienne qu'il caressait de l'autre main. « Tu n'as pas perdu les billets, Toto ? » demandait-il de temps en temps. « Ce sont des billets de première classe !» La dame et sa grande fille, honteuses du brave homme à cause de la présence de François, se plongent dans le programme du spectacle et secouent la tête quand les enfants crient. François est gêné. Alors que l'homme admire la pièce et les acteurs, elle critique. « Un acteur ne savait pas son rôle !» « Des connaisseuses doivent se plaindre, » pensait-elle. La famille descend à Nogent-sur-Marne. Bouleversé par la scène du train, François s'interrogeait. Il pensait à sa mère. « Est-ce que je ne suis pas comme ces femmes du train ?» se demandait-il. Il se reprochait de ne pas la mêler à sa vie, comme s'il avait honte d'elle. Ses réflexions l'amènent à un aveu. Il souhaite faire connaître Madame Dorgel à sa mère. Au réveil, la première pensée de François avait été pour sa mère. Madame de Sérieuse était sortie et devait rentrer pour déjeuner. François essayait de se distraire. Il lisait, écrivait, fumait. Tout à coup, il sursaute. Qui donc venait de lui dire qu'il n'avait pas encore pensé à Madame Dorgel ? « Et pourquoi y penserais-je ? » se répond-il un peu énervé. Il se promet même de ne téléphoner que le lendemain chez les Orgel. Quand sa mère arrive, François jette sur lui un regard nouveau. Il n'avait jamais remarqué sa jeunesse. Madame de Sérieuse avait 37 ans. Si on ne remarquait pas sa jeunesse, on ne remarquait pas non plus sa beauté. Peut-être n'était-ce pas une beauté de son époque. Madame de Sérieuse ressemblait aux femmes du XVIe siècle, le siècle de la beauté française, dont les portraits aujourd'hui nous attristent. Nous avons aujourd'hui une idée si différente de la beauté des femmes que nous ne nous retournerions peut-être pas sur la femme dont le duc de Nemours était amoureux. François devient presque tendre. Cette tendresse fait croire à la mère que son fils cherche un pardon. Qu'a-t-il fait ? Se demande-t-elle aussitôt. À la fin du repas, Madame de Sérieuse lui dit « Tu n'as rien de spécial à me dire ?»« Mais non, maman, » dit François, surpris. « Bien, parce que j'ai des choses à faire. » Et elle disparaît. Après avoir marché dans la maison, puis dans le jardin, François remonte dans sa chambre, choisit un livre qu'il n'ouvre pas et s'étend sur son lit. Il se retourne comme un malade qui ne peut trouver le calme. De quelle potion avait-il besoin ? Dans sa fièvre, il lui semblait que seule une main fraîche pourrait lui faire du bien. L'amour venait de s'installer en lui. François goûte chez les Orgel le lendemain. Il s'était dit tout le long du chemin « J'aime Mao » et pensait éprouver en face d'elle quelque chose d'extraordinaire. Mais il se sentait calme. « Me suis-je trompé ? » pensait-il. François savait que Madame d'Orgel aimait Anne, qui n'était pas pour lui un rival. Il le voyait comme un ami. Anne d'Orgel, lui, ne trouvait pas anormal que Sérieuse devienne si vite un de leurs proches amis. Sans le savoir, Orgel préférait François à tous parce que François aimait sa femme. De plus, il commençait à aimer Mao comme s'il avait fallu que quelqu'un l'aime pour qu'il la découvre. Madame d'Orgel, elle, voyait d'un assez bon œil cette amie d'Anne. Pouvait-elle s'inquiéter de la préférence qu'elle accordait à François ? N'était-ce point son devoir conjugal de partager les goûts de son époux ? Comment se méfier de ce qui vous rapproche ?